Bonjour à tous. Nous avons vu lors de la deuxième émission la réalisation des premiers vols, en particulier avec Clément Ader en 1980 et les frères Wright en 1939, en 1903. De nombreux constructeurs se lanceront dans la fabrication d'avions toujours plus performants et c'est sous l'impulsion des militaires que l'aviation va faire d'immenses progrès et la production d'avions se chiffrera en milliers au cours de la Grande Guerre 14-18. Après la guerre, les pilotes démobilisés transformant les avions militaires disponibles en avions de passagers vont ouvrir les premières lignes aériennes. La toute première ligne sera inaugurée par la Deutsche Luftreederer, ancêtre de la Lufthansa, le 5 février 1919 entre Berlin et Weimar. C'est aussi l'époque des raids, qui ouvre des lignes entre les pays, passant au-dessus des mers, des déserts, des océans, pour transporter des passagers, mais aussi du courrier. C'est la raison d'être des lignes aériennes Latécoère, basées à Toulouse, qui ira par étapes de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal et franchira l'Atlantique Sud jusqu'à Rio, puis à Buenos Aires. Les noms de ces pionniers de l'aéropostale, Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaume. Trois pics en Patagonie argentine portent leur nom. L'Atlantique Nord est un défi pour tous les aviateurs de cette époque. Plusieurs tentatives sont faites, dont le tragique essai de Dungesser et Colly à bord de l'hydravion L'Oiseau Blanc, début mai 1927, dans le sens Paris-New York. Très récemment, on aurait retrouvé trace de cet appareil du côté de New York, de Terre-Neuve, mais aucune information sur un succès n'avait été signalée par les gardes-côtes américains de l'époque. Il faut dire qu'un Américain pur jus se préparait à faire la traversée, mais dans l'autre sens. Et c'est Charles Lindbergh qui, le 21 mai 1927, se pose au Bourget devant une foule en délire, remportant au passage les 25 000 $ promis en 1919 par Raymond Orteig, un milliardaire américain. Car pour stimuler les constructeurs et les pilotes, de nombreux prix sont créés, récompensant la vitesse ou la distance parcourue. Les appareils devenant plus rapides et plus sûrs, des compagnies de transport se créent dans tous les pays. Depuis la KLM aux Pays-Bas, en 1920, jusqu'à la British Overseas Aircraft Corporation, en 1939, toutes les compagnies majeures d'aujourd'hui voient le jour, dont Air France en 1933. Et la première hôtesse de l'air opère sur un vol San Francisco-Cheyenne en 1930. Dans les airs, c'est l'heure de gloire des gros hydravions, qui traversent les océans en décollant et en mérissant sur des plans d'eau. Ainsi, les USA et la France sont reliés par des hydravions décollant du port de New York pour se poser à Marignane, sur l'étang de Berre, via Lisbonne, en 35 heures. Mais les avions classiques reviennent en force, avec la série des bimoteurs Douglas dans le fameux DC-3. Cet appareil, civil à l'origine, va devenir la véritable bête de somme de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Fabriqué à 13 000 exemplaires entre 1939 et 1945, on retrouvera sa version militaire sur tous les fronts sous l'appellation de Dakota. Il y en a encore en état de vol, 80 ans après. Encore une fois, c'est la pression de la guerre et ses financements sans limite qui va faire progresser la technique. En 1939, le record de vitesse est détenu par le Messerschmitt 109, chasseur qui va s'illustrer lui aussi partout où l'Allemagne nazie entre en guerre. Il va affronter les Dewaitin français, les Spitfire anglais, les Yak russes et les Curtiss P-40 américains. Si le moteur à réaction fait ses premiers tours et entendre son rugissement à 4 jours de l'entrée en guerre avec le Henkel 176, les premiers appareils opérationnels seront le Gloster Meteor monoréacteur en 1941, un anglais, et en Allemagne, le Messerschmitt 262 biréacteur en juillet 1942. Appareil qui aurait pu faire des dégâts encore plus considérables sur les flottes de bombardiers alliés si Hitler n'avait pas exigé qu'il ne soit transformé en bombardier léger. Ce sera le règne des gros bombardiers anglais et américains qui vont pilonner l'Allemagne et dont le célèbre Boeing B-29, celui qui lancera par deux fois des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Mais ces appareils ouvriront la voie au quadrimoteur transatlantique. Voyons après ce qui s'est passé après cette terrible Deuxième Guerre mondiale. Aux USA, on lance les Douglas DC-4 et DC-6, le Boeing Stratocaster et le merveilleux Lockheed Constellation. à mon goût, le plus bel avion à hélice jamais construit. Celui qui eut la chance de voir un décollage de Constellation ne peut pas l'oublier. En France, on fabrique l'Armagnac et en URSS, le Tupolev 114. Les traversées de l'Atlantique deviennent plus rapides, plus sûres et surtout moins chères. L'arrivée des appareils commerciaux à réaction va révolutionner le monde du transport. Le 2 mai 1952, le quadriacteur anglais de Havilland Comet 1 réalise sa première liaison commerciale. Confort et régularité sont au programme. Mais une série d'accidents arrête tragiquement sa carrière. Cet appareil est équipé de hublots carrés, comme une fenêtre, ce qui se faisait à l'époque. Et les techniciens ne savaient pas encore que les cycles de mise en pression et décompression de l'appareil créaient des micro-crics au coin de ces hublots. La carlingue explosait en vol lors des phases de montée, lorsque l'appareil se mettait en pression. Depuis, tous les hublots sont de forme ronde ou ovale. 4 ans plus tard, les Soviétiques mettent en ligne le Tupolev 104, mais il est réservé aux lignes intérieures de l'immense territoire soviétique. Aux États-Unis, 1958 voit l'arrivée des quadriacteurs Douglas DC-8 et Boeing 707. Cet appareil, développé à partir d'un avion financé par l'armée de l'air US, qui deviendra le ravitailleur KC-135, toujours en service en 2018, va s'imposer sur ce marché. En France, plus modestement, Sud Aviation lance en 1959 le bireacteur Caravelle, vendu à 250 exemplaires. Cet appareil tente de conquérir le marché américain, mais Sud Aviation est obligé de passer par une licence avec Douglas. Et, à cause d'un accord mal rédigé juridiquement, Douglas copiera la Caravelle et sortira sur le même principe de 2 réacteurs placés à l'arrière, son DC-9, et en vendra plusieurs milliers. Les Anglais innoveront avec 3 réacteurs groupés sous la dérive, le Trident, formule reprise par l'américain Boeing avec la 727, puis les Russes avec le Tupolev 154, et en aviation d'affaires par le Falcon 50 de Dassault. Au début des années 70 arrive une révolution, les gros porteurs. Pour faire face à l'augmentation du trafic aérien, les constructeurs mettent sur le marché des appareils de grande capacité, le Lockheed 1011 TriStar, le Douglas DC-10 et le Boeing 747, surnommé Jumbo Jet. 500 passagers, 390 tonnes au décollage, 950 km/h à 13 000 mètres d'altitude. C'est un véritable succès, car ces appareils vont faire baisser le prix du billet d'avion, entraînant une explosion de la demande. Pénalisé par des accidents dramatiques dus à une erreur de conception, le DC-10 sera retiré du service, certains devenant des ravitailleurs pour le compte du US Air Force sous l'appellation KC-10, tandis que le TriStar ne trouvera pas son marché. Pendant des décennies, le Boeing 747 va régner en maître sur ce créneau, devenant la vache à lait de Boeing. Airbus a bien tenté de prendre pied sur ce marché avec son quadriréacteur A340, mais sans véritable succès. Il faudra attendre l'A380 et ses capacités de près de 800 passagers pour faire de l'ombre au Boeing 747. Mais Boeing n'avait pas attendu pour assurer la relève. L'apparition de moteurs très puissants et très fiables a ouvert la porte des vols transatlantiques aux appareils bimoteurs, la régulation aérienne ayant évolué dans ce sens. Là encore, c'est Boeing qui va gagner avec son Boeing 777, le 777. Son concurrent chez Airbus est l'A330, qui remporte cependant un réel succès. En parallèle à cette course au gigantisme, le marché des vols intérieurs se développe. Si pendant longtemps Boeing l'a dominé avec le petit Boeing 737, Airbus est venu le grignoter progressivement avec son appareil à deux couloirs A373, concurrent des Boeing 757 et Boeing 767. C'est une compagnie américaine, Eastern Airlines, qui va lancer l'A300. Essayé par l'ancien astronaute Frank Borman, alors PDG de la compagnie, qui est séduit par les qualités de vol de l'appareil, Eastern passe une première commande en 1978 de 23 appareils et 9 options, qui sera suivie par de nombreuses compagnies de par le monde, sauvant ce programme et la division avions de son constructeur, Aérospatial. Il faut savoir qu'à septembre 1978, Aérospatial n'avait vendu que 113 Airbus et fabriqué des queues blanches, des avions sans affectation, qui s'alignait sur le parking de Toulouse. Depuis, en plus de l'usine de Toulouse, Airbus a installé des chaînes de montage en Allemagne, à Hambourg, en Chine, à Tianjin, et aux États-Unis, à Mobile, dans l'Alabama. Car le success story d'Airbus, c'est le petit A320, lancé en 87, est décliné en 321, version plus longue, 319 et 318, version plus courte, au point de parvenir à reléguer le Boeing 737 en deuxième division, obligeant Boeing à moderniser son appareil. Le match se joue aujourd'hui entre la famille Boeing A320neo et les Boeing 737 MAX, avec en 2018 toujours l'avantage Airbus. À fin 2017, près de 10 000 Airbus ont été commandés, dont 7 500 de la famille A320 et, plus accessoirement, 217 de la famille A380. Et à chaque salon aéronautique, Paris Le Bourget, Farnborough en Angleterre, Singapour ou Dubaï, les constructeurs engrangent des centaines de commandes. 1200 pour Le Bourget 2017, 1006 pour Farnborough un an après. Airbus a dans son carnet de commandes près de 8300 avions à mi-2018. Celui de la famille A320 est rempli pour les 10 prochaines années, conduisant Airbus à continuellement augmenter les cadences de production. De 50 appareils par mois à mi-2018, elle devrait passer à 63 à mi-2019, avec un objectif de monter à 75, du jamais vu dans l'aérien civil, avec tous les problèmes que cela entraîne pour l'ensemble des fournisseurs obligés de suivre cette progression. Les améliorations techniques alliant allègement des avions et réduction de la consommation des réacteurs permettent de faire des vols non-stop de plus en plus longs. Un Boeing 787-9 de la compagnie australienne Qantas a ouvert une ligne directe Londres-Perth sur la côte nord de l'Australie, soit 9009 miles, 14 500 km en 17 heures et 20 minutes. En 1947, Qantas, la même compagnie, mettait 4 jours et 9 escales avec un Looking Constellation pour relier Londres à Perth. On voit le chemin parcouru. Un essai avait été fait dans les années 90 avec un Boeing appartenant à la société Shell sur un Londres-Sydney sans escale, avec un carburant spécial. Mais le coût de ce carburant a rendu l'opération économiquement non viable. D'autres vols très longs courriers existent. Toujours chez Qantas, Sydney-Dallas en A380, 13 800 km, 17h20. Chez Qatar Airways, Doha-Auckland en Boeing 777, 14 500 km en 17h40. Mais le record est détenu en 2018 par un Airbus A350-900 ULR, Ultra Long Range, capable de faire Singapour-New York, soit 15 340 km, en 17h52 minutes de vol sans escale. Vol qui pourrait atteindre 19 heures en fonction des vents. Au début des années 60, les passagers veulent voler plus vite pour réduire le temps de vol. Traverser l'Atlantique en 8 heures, c'est du temps perdu. Il n'y avait pas de connexion Internet à bord à l'époque. Il faut pouvoir faire un aller-retour New York-Paris dans la journée. Les constructeurs imaginent des avions supersoniques civils au-delà de 2,5 fois la vitesse du son, soit Mach de 5. Mais à Mach 1, 1200 km/h environ, l'air est si compressé qu'il formait un obstacle infranchissable aux appareils à l'aérodynamique classique. Et comme toujours, la solution va venir des militaires, qui ont passé le fameux redouté mur du son le 14 octobre 1947 avec le Bell X-1 piloté par Chuck Yeager, mur sur lequel plusieurs tentatives s'étaient soldées par la mort des pilotes d'essai. Largué d'un bombardier B-29 Super Fortress à 13 000 m d'altitude, le X-1 atteindra 1127 km/h, soit Mach 1,06. Cet appareil atteindra par la suite 1640 km/h. Et toute une race d'avions de chasse et de bombardiers supersoniques va être déployée de par le monde. En 2017, au 50e anniversaire de cet exploit, Chuck Yeager avait 94 ans. Pour mémoire, le premier homme à avoir atteint ces altitudes est un Français, Dolphus Audouin, qui eut l'idée de constituer une grappe de ballon pour l'amener dans une capsule à 14 000 mètres au-dessus du plancher des vaches observer la Lune, le 22 avril 59, soit 2 ans avant le vol de Yuri Gagarin. Mais à Mach 2,5, les contraintes thermiques imposent des solutions techniques beaucoup trop chères à mettre en œuvre pour des avions commerciaux. Aussi est-il fixé une limite Mach de 2, vitesse autour de laquelle vont se développer les avions supersoniques civils. En France, après Caravelle, on va directement faire le grand saut supersonique. Et comme un projet similaire se profile en Angleterre, Sud Aviation et British Aircraft Corporation lancent en 1961 une coopération pour les études de la fabrication du Concorde, incluant pour les moteurs la Snecma et British Shadley. Il deviendra Rolls-Royce en 69. Les Américains se lancent aussi dans la course en 63, avec le Boeing 2707 aux ailes à géométrie variable, prévu pour 200 passagers à Mach 2.7 et le Lockheed 2000-7 d'une architecture très proche du Concorde. Mais aucun de ces projets n'aboutira. Les Russes lancent le Tupolev 144, 140 passagers Mach 2.4. Concorde, pour le Concorde français, car il y aura deux chaînes d'assemblage, l'une en France, l'autre en Angleterre, un non-sens économique qui ne sera pas renouvelé pour le programme Airbus. Décolle pour la première fois le 2 mars 69, son équivalent anglais le 9 avril 69. En 1963, les commandes de Concorde atteignaient 124 unités. C'est un immense succès. Toutes les grandes compagnies européennes, américaines du Nord et du Sud, du Moyen-Orient, ainsi que la Chine, veulent du Concorde. Mais trois événements vont mettre un terme à cette aventure. Tout d'abord, deux raisons officielles. L'augmentation très importante du prix du carburant en 73, multiplié par 5 en quelques mois suite à la guerre du Kippour, puis encore par 3 en 1978. Puis la montée des revendications environnementales, qui s'inquiétaient de la multiplication des banques supersoniques au-dessus des terres habitées. Et enfin, une troisième officieuse, l'échec de Boeing à mettre au point son Boeing 2707 en 71. Aussi, les Américains, sous prétexte de bruit, interdisent l'atterrissage de Concorde à New York. En 1973, les compagnies aériennes, américaines d'abord, annulent leurs options. Seuls Air France et British Airways garderont leur Concorde. Il sera produit deux prototypes, deux pré-séries et 16 avions de série, soit 20 avions en tout et pour tout, dont un de série qui servira de pièce de rechange à la flotte en service chez Air France. Ne pouvant desservir New York, les Concorde se poseront d'abord à Rio pour Air France et Bahreïn pour British Airways, à partir du 21 janvier 1976, puis à Washington le 24 mai et à Rio jusqu'en 1982. La ligne de Washington d'Air France fut prolongée en 1979 jusqu'à Dallas, sous les couleurs de Braniff, le Concorde d'Air France recevant une immatriculation provisoire américaine, survolant les États-Unis sans passer le mur du son. Mais cette exploitation ne durera qu'un an. British Airways fera la même expérience de prolongation de son vol Londres-Washington vers Miami, mais à vitesse supersonique cette fois, les appareils survolant la mer. Un Concorde de British Airways volera aussi sous les couleurs de Singapore Airlines, entre Singapour et Melbourne, en Australie. Après des années de discussion, le premier vol commercial Paris-New York d'Air France aura lieu le 22 novembre 1977, et votre serviteur était à bord de la tour de contrôle de Roissy à ce moment-là. Au même moment, un Concorde de British Airways décolle de Londres. Ils voleront de concert et se poseront au même moment à New York, sur deux pistes distinctes, puis viendront s'arrêter nez à nez devant l'aérogare. Les Concorde d'Air France permettaient de faire un aller-retour Paris-New York dans la journée. Départ de Paris à 11h, arrivée à New York à 8h45 en heure locale, retour de New York à 11h, arrivée à Paris à 22h45. Idem pour les vols Londres-New York de British Airways. 3 heures de vol à 18 000 mètres d'altitude et Mach de 2. Pour mémoire, un pilote de Concorde aura passé plus de temps en Mach 2 que n'importe quel pilote de chasseur supersonique, les vols militaires étant en général très courts, vu la consommation de carburant et la capacité des réservoirs d'un avion de chasse. Idem pour les 140 passagers du Concorde, pour qu'ils aient été un peu déshabitués de la ligne. Retiré du service en 2003 après son crash à Paris-Charles de Gaulle, plusieurs Concorde sont exposés dans des musées en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et un Concorde d'Air France trône fièrement devant les bureaux de la compagnie à Roissy. Le Tupolev 144 russe est lancé juste après le Concorde, dont il reprend les caractéristiques et la silhouette, au point d'avoir été nommé Concordski. Un relent d'espionnage industriel au sein de Sud Aviation, son constructeur, au profit de Tupolev, a souvent été évoqué. Il a fait son premier vol 3 mois avant le Concorde, 31 décembre 1968, ordre du gouvernement soviétique. Le Tupolev 144 n'aura jamais servi à transporter des passagers au sein de l'aéroflotte et aura été utilisé uniquement pour le transport de courrier avant d'être rapidement retiré du service. Pourquoi ? Peut-être à cause du tragique accident intervenu lors de sa démonstration en vol lors du salon aéronautique du Bourget le 3 juin 1973. Pour la petite histoire, André Turca, le pilote d'essai du Concorde français, avait été invité à bord de ce vol. Invitation qu'il avait poliment déclinée, connaissant la tension supportée par un équipage lors d'une démonstration en vol. Après ces vols commerciaux légers, aujourd'hui, on a plusieurs projets de vols de supersoniques civils. La NASA a proposé en 2017 de faire coopérer plusieurs organismes sur le terme de ce supersonique civil. 5 pays, dont la France, avec l'ONERA, sont partie prenante de ce projet. Le premier, la S2 d'Aérion, est un tri-réacteur pour 8 à 12 passagers à Mach 1-4, prévu pour 2025. Skype Aerospace va entamer en 2019 les essais d'un démonstrateur de jet d'affaires supersonique. Et en 2021, il mettra en vol le S51, prévu pour transporter là aussi 18 à 22 passagers, sur 6200 nautiques, à Mach 1-6, livraison pouvant intervenir en 2023. La NASA a passé en avril 2018 à Lockheed Martin un contrat de 275 millions de dollars pour développer le démonstrateur Low-Bow Fly Demonstrator, démonstrateur à bande sonique minorée, encore appelé X-Plane, équipé d'un seul moteur, qui devrait voler en 2021 à 1560 km/h et 16 000 mètres d'altitude, en ne générant un bang de 60 décibels, donc bien loin d'un Concorde. Après s'être appelé Quest, qui veut dire Quiet Supersonic Transport, appareil transport supersonique silencieux, le projet est dénommé X-59 et les premières pièces de cet appareil ont été usinées par Lockheed Martin en novembre 2018. Boom Supersonic, cette start-up a lancé un projet de supersonique civil, le XB1 Baby Boom, avec un premier vol prévu en 2018. On verra s'ils arrivent à tenir leur calendrier. Fort de 76 commandes à fin 2017, dont 20 Japan Airlines, ce tri-réacteur capable d'emporter environ 50 passagers à Mach 2 pourrait être le vrai successeur du Concorde. On ne peut pas oublier non plus l'aviation d'affaires, pour laquelle la France, avec les Falcons de Dassault, tient le haut du pavé. Les trois constructeurs majeurs qui se partagent le marché sont Dassault Aviation, en France, pour la gamme des Falcons, le plus gros, le Falcon 8X, 12 000 km d'orient d'action, 54 millions de dollars. Bombardier, au Canada, la gamme Global 6, le plus gros, Global 6 000, 11 000 km d'orient d'action, 62 millions de dollars. Et le plus gros de la couvée, chez Gulfstream, le Gulfstream 650, 14 000 km d'orient d'action, 68 millions de dollars. Pour la petite histoire, le sujet d'assaut dans ce créneau doit beaucoup à une compagnie américaine. C'est Pan Am qui, recherchant un petit appareil pour des liaisons intérieures, a demandé à Charles Lindbergh, le vainqueur de l'Atlantique Nord, d'aller tester celui appelé alors le Mystère 20. Et Charles Lindbergh appela le président de la Pan Am en disant « I got your bird, j'ai votre oiseau ». La Pan Am commande 40 avions et prend une option pour 120 autres. En franchissant l'Atlantique, le Mystère 20 s'appelle Fanjet Falcon 20, ou 20. Le premier vol du Mystère 20 est effectué par René Bigon. Ce pilote d'essai d'assaut se tuera plus tard aux commandes du prototype du Mirage F1. Sa famille a été propriétaire du domaine de Régus à Pierrevert, et une rue de Pierrevert porte son nom. Le Falcon 20 sera ensuite retenu par les US Coast Guard et par la Marine Nationale pour surveiller notre domaine maritime. Et un nouveau venu espère prendre la place sur ce marché d'aviation d'affaires avec un jet d'affaires supersonique, Aérion. Aidé dans un premier temps par Airbus pour les dynamiques, la structure et les commandes de vol électriques, Aérion travaille depuis 2017 avec le Scanworks, le laboratoire expérimental de Lockheed Martin. Son projet, nommé AS2, est équipé de 3 moteurs de General Electric, le partenaire de Safran pour les Airbus, et qui devrait voler à Mach 1-4 en 2023. Une première commande a été passée par le loueur d'affaires américain Flexjet, et les premiers vols commerciaux sont prévus pour 2025. Et aujourd'hui, un tout nouveau domaine de propulsion pourrait être utilisé par les petits avions. Donc on change complètement de gamme de vitesse. La propulsion ionique. Des fils minces placés horizontalement à l'avant des ailes font office d'électrodes positives, et d'autres placées à l'arrière des ailes, d'électrodes négatives. Des batteries de 40 000 volts fournissent de l'électricité, permettant à un flux d'ions de circuler entre les deux rangées de fils, créant une poussée. Un prototype de 5 mètres d'envergure, développé par le Massachusetts Institute of Technology, a déjà volé sur 10 mètres à plusieurs reprises en 2018. Dernier secteur de l'aviation de loisirs. C'est un secteur très dynamique, l'aviation de loisirs, à moteur ou en plein air, et qui connaît une intense activité en France. De nombreux constructeurs proposent des appareils très sûrs, permettant de faire une heure de vol pour un monomoteur pour environ 125 euros. Pour le vol à voile, notre région PACA est particulièrement bien placée, avec de nombreux terrains, dont le plus proche de Manosque est à Vinon-sur-Verdon. Et je passe la parole à Madame Claude Bourasso, qui va nous parler de sa carrière d'ingénieur, puis de ses activités de moniteur de vol à voile. Madame Claude Bourasso, bonjour. Je vous reçois dans le cadre de ces émissions sur l'espace, en double qualité. La première, en qualité d'ingénieur à Aérospatial, puis Airbus Hélicoptère, puis Airbus. Vous avez fait une carrière dans le domaine des hélicoptères. Et autre casquette, en tant que monitrice de vol à voile. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez fait à Aérocoptère, dans quel domaine vous avez travaillé, ce qui vous a le plus plu dans ce domaine, ou ce qui vous aurait pu vous déplaire. Et puis ensuite, vous nous parlerez du vol à voile, un domaine très intéressant. Et sur Manosque, on a la chance d'avoir Avinon, une base fantastique. Ça, je vous laisse la parole pour nous en parler.
Alors, en ce qui concerne ma carrière professionnelle, moi j'ai fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique féminine dans la région parisienne, à Bourg-la-Reine, puis l'école spéciale des travaux aéronautiques. Et là, j'ai travaillé à Aérospatial Méholt Division Avion, où j'ai occupé de multiples postes, surtout au domaine de production. Puis j'ai quitté donc le nord de la France pour descendre dans le sud-ouest, en Aquitaine, où là j'ai travaillé à Espace Défense, toujours Aérospatial, Division Espace Défense, où là j'ai travaillé au corps de rentrée, aux étages propulsifs.
Dans le domaine civil ou militaire?
Civil. Civil, c'est les fusées aériennes. Corps de rentrée, c'était plateau d'avion et sous-marin nucléaire.
Donc c'était militaire.
Et étage propulsif, c'était plutôt fusée aérienne.
Fusée aérienne.
Voilà. Après, j'ai travaillé également, je suis venu à Marignane, aux hélicoptères.
En quelle année?
Voilà, ça c'était en octobre 84. Donc j'ai démarré en mars 74. Donc, Méholt, je suis passé en Aquitaine en octobre-novembre 1977-78 et ensuite Marignane en octobre 84.
Donc, ouais. Et vous avez pris votre retraite en...
Pour être à la retraite le 1er janvier 2011.
Oui.
Bon. Voilà.
La retraite. Et
à Marignane, j'ai fait du bureau d'études où j'étais au Super Puma. Je suis arrivé au Tigre. Et comme il a eu des difficultés à démarrer, je suis passé au Super Puma. Ensuite, j'ai fait de la logistique, intendance, pas logistique.
Oui, logistique, bâtiment.
Voilà, bâtiment, machine outil, matériel de production. Voilà. Et puis, j'ai fait de l'audit, j'ai fait du service à la clientèle, j'ai fait de multiples activités. Voilà. Tout est intéressant, chaque usine a ses caractéristiques. Le nord de la France est assez typique, puisque c'est la Picardie.
Et le nord de la France, Méholt, c'était des structures d'avions?
C'était très varié là-bas. À l'époque où je suis arrivé, il y avait le tronçon 14 du Concorde, celui avec les réservoirs, donc celui qui
avait fait, central.
Voilà, qui a fait la défaillance, on va dire,
à Roissy.
J'ai travaillé également à l'ordonnancement. Donc là, c'était la fabrication, mais on avait donc les ailes de corvette, les ailes de corvette, le tronçon 14, donc avec les réservoirs. On faisait aussi les portes passagers et la porte issue de secours, qui était une usine à gaz.
De Concorde, tout ça.
Technologiquement parlant. Voilà. Mais à l'usine, on fabriquait également donc les ailes de corvette, des ailes de mirage. Et beaucoup de pièces élémentaires sur les vieux avions comme le Nord 2005.
Pièces de rechange alors.
Oui, pièces de rechange. Voilà, donc c'était très varié à Méholt. C'est une petite usine en définitive, plus ou moins de sous-traitance, qui aujourd'hui, hélas, n'est plus dans le giron direct d'Airbus, puisqu'elle a été. C'est Aérostructure. Voilà. Ouais. Donc l'Aquitaine, par contre, c'est toujours Airbus, mais Airbus Espace Défense. Donc, chaque usine a ses particularités. La cuisine est intéressante. Bon, moi, je suis d'un tempérament où j'ai besoin de bouger, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le tour d'un domaine, il faut que j'aille voir autre chose.
Oui, ça, c'est beaucoup bougé même.
C'est ce qui
Néol,
fait,
Aquitaine, Marignane.
qu'effectivement, j'ai bougé. Mais là aussi, de fait, un peu de ma passion, le planeur, puisque en quittant le nord, je suis allé dans le sud-ouest, une région plus agréable, et puis bien sûr.
Donc,
Voilà, j'ai
oui.
fini donc dans le sud-est, où sur le plan aérologique, c'est une région très favorable au vol à voile.
Oui,
Voilà.
et donc le vol à voile, c'est une passion
Qui est très
qui est
ancienne,
très
puisque
ancienne.
moi j'ai mon papa qui était pilote privé, pas pilote, il n'a jamais été pilote professionnel. Voilà, donc il m'a passé sa passion, et donc dès que j'ai eu l'âge d'apprendre à piloter, ben, j'ai passé mes brevets d'avion. Donc ça c'était en 66. Et en 68, l'année où j'ai passé mon baccalauréat et que j'ai passé des concours pour faire des études supérieures, mon papa, bien sûr, m'a amené pour passer mes concours. Et comme on avait des amis dans la région parisienne, on a été les voir. Et cet ami-là m'a fait faire un vol qui était le convoyage de La Ferté-Alais à Bulle-au-Bonnevaux en 6800. Et donc lui, il m'a passé le virus du planeur.
C'est licence, c'est un planeur.
C'est un planeur
Ouais,
biplace.
biplace.
Voilà. Donc il m'a passé donc le virus également du planeur. Et en 68, l'année de mon baccalauréat, mon papa m'a amené à Angers, là où c'était aussi un peu la Mecque du vol à voile à une certaine époque. Et ben, il m'a inscrite pendant un championnat, puisque les gens du club pouvaient également voler, parce que la structure était restreinte, parce qu'ils faisaient la piste une piste en dur au niveau du club. Et donc j'ai commencé à apprendre à piloter les planeurs, et à la fin du championnat, le responsable du club, qu'on appelait le patron, qui était René Hersant, a proposé à mon père de me garder pour faire de moi un pilote de vol à voile. Et donc j'ai passé mes vacances d'été à faire du planeur. Fin septembre, je les ai quittés parce que je devais aller à Paris, où j'avais trouvé un poste de pionne dans un lycée pour pouvoir, en parallèle de mes études parisiennes. Et après, ben, j'allais passer toutes mes vacances à Angers, et je suis devenu pilote de planeur. Ensuite, ben, j'ai fait des qualifs remorqueurs, ma qualif instructeur, et aujourd'hui, je fais surtout de l'instruction. Et alors maintenant, je vole dans trois clubs, puisque là, je suis à la retraite, je fais un peu de l'associatif multi-région. Et donc mon club d'appartenance, c'est Vinon-sur-Verdon, puisque actuellement c'est là où je suis domicilié. Et l'été, je vais plutôt sur La Roche-sur-Yon et à côté de Chartres, un terrain qui est de Bayeux-Hermenonville, où il y a des compétitions et où j'ai pratiqué la compétition plusieurs années. Et aujourd'hui, ben, je leur donne un coup de main dans leur championnat.
Et tout ça, c'est une activité strictement bénévole parce que c'est
Strictement
le
bénévole.
monitorat de vol à voile, ça.
On peut se faire payer, mais c'est
Non, non.
pas. D'abord, je refuse, disons, de me faire payer pour mes activités associatives et de bénévolat, de manière à pouvoir garder ma liberté. C'est-à-dire que je ne veux pas être contrainte
À être
à
là.
être là, présente, parce qu'on compte sur moi, etc. Je viens quand j'ai envie, et là, en ce moment où il fait très chaud, hélas, je vole de moins en moins.
Alors justement, parlez-nous un petit peu, quelqu'un qui, un de nos jeunes auditeurs qui serait intéressé par le vol à voile, comment on y rentre dans le vol à voile? C'est quoi bon, le plaisir, on le connaît, c'est d'être en l'air, de pas avoir de bruit, de maîtriser son avion, d'aller pratiquement où on veut quand même avec ces machines.
Oui, enfin, il y a quand même les espaces aériens qu'il faut
Oui,
respecter.
d'accord, non,
Mais
mais
bon,
on a quand même plus de liberté que sur le sol.
à part ça, effectivement, on a quand même plus de liberté qu'en voiture. On n'a pas des routes à 80.
Il n'y a pas de limitation de
Alors,
vitesse dans le
pour
ciel.
commencer le vol à voile, aujourd'hui, on peut commencer à 14 ans. Ça, c'est la première chose. Quelqu'un qui est intéressé, la meilleure chose, c'est de venir sur un terrain de vol à voile.
Et
Alors,
ici, on a Vinon-sur-Verdon, c'est juste
voilà,
à côté.
il y a
Château
celui
Arnoux
de
aussi.
Vinon. Alors, il y a Vinon-sur-Verdon, il y a Château-Arnoux, il y a Sisteron, Gap, pour regarder ceux de la vallée de la Durance.
Oui.
Pour parler des plateformes de formation, donc Fayence, la Fayence, c'est dans une cuvette. Donc, on apprend très vite le vol sur la montagne, puisque pour sortir
Il
de
faut
Fayence,
aller
il faut directement aller dans les
sur
roquettes.
l'Estérel, dans ces gens.
Vinon, on va dire, c'est déjà un petit peu plus un club de plaine, parce qu'avant de trouver la montagne, Il y a Saint-Aubin, ça, on est tout à fait d'accord. Si on va à l'est avec Puy-Boisson, mais on a quand même un plateau.
Oui, assez
vaste. Et dans un premier temps, on peut voler comme si on était en plaine. Mmh. Par contre, après, effectivement, il faut quand même apprendre à voler en montagne, qui est très particulier. Parce que la montagne, c'est comme pour ceux qui font du ski ou de la randonnée ou de l'escalade. La montagne est traître. C'est elle qui nous domine, c'est pas nous qui la dominons.
Malheureusement, c'est en montagne qu'il y a le plus d'accidents de planeurs.
Oui et non, parce qu'il y a aussi en plaine des accidents lors des ce qu'on appelle lavage, quand on circuite, quand on fait de la campagne. On peut se retrouver à un manque d'ascendance et à ce moment-là, il faut se poser dans la nature.
On se pose dans la nature.
Et il faut choisir un champ.
Oui.
Et puis si on n'a pas suffisamment anticipé, si on n'a pas bien géré son vol, à ce moment-là, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle des vaches catastrophiques. Alors, il y en a où ça consiste simplement en esquintant le matériel, ça, c'est pas trop grave. Par contre, on a quand même des fois où on a des accidents, parce que c'est des vaches un peu tardives.
Mais c'est moins brutal qu'un accident en montagne où on peut se faire surprendre par une condition météo.
En montagne, disons que même en gérant bien son vol, on peut se faire surprendre par des changements de vent entre deux zones relativement proches. Puisque moi je me souviens d'une vache où justement j'étais parti de Vinon, on avait le vent qui venait du sud, et disons que arrivé vers Sisteron Gap, j'ai pas fait gaffe que le vent il avait tourné, et sur un sommet j'ai tourné du mauvais côté, j'aurais dû tourner vers le nord pour rester disons face au vent, j'ai tourné vers le sud. Et là, à ce moment-là, je me suis récupéré ce qu'on appelle la dégueulante de la montagne.
On est descendu, tu descends jusqu'à
J'ai été me vacher dans un champ que j'avais répertorié avant. Mais disons que c'était pas évident. J'avais pas du tout prévu de me poser là. Donc je me suis fait un petit peu peur ce jour-là, mais bon, ça fait partie du sport.
Donc ça ici, donc à Manosque, dans la région, on a plein de possibilités pour faire du
planeur.
Pour parler chiffres, ça coûte combien une heure de planeur?
Alors, chaque club a ses tarifs, donc on peut difficilement parler de tarifs. Disons que pour rester général 100 mètres de prix, parce que c'est très variable d'un club à un autre, il faut prévoir une licence fédérale, ça c'est obligatoire, comment dire?
Bon marché.
Pas un sport bon marché. C'est sûr qu'effectivement, mais il faut savoir que quand on vient en vol à voile, on y passe sa journée. Ça nous évite d'aller boire au bar du coin. Hein,
ça demande beaucoup de temps.
Bouffeur de temps.
Bouffeur de temps.
Vous arrivez le matin, il y a un briefing.
Un
briefing météo et puis la répartition machine. Donc si vous êtes élève, on vous attribue un instructeur. Et puis après, il y a ceux qui sont brevetés et puis qui font de la campagne, qui vont prendre un planeur, qui vont partir pour la journée. Mais vous qui êtes débutant, vous allez passer votre journée sur le terrain, à tenir la planche, à accrocher les câbles.
À sortir les avions, rentrer les avions.
Oui, mais ça, tout le monde le fait le matin. Bon. Ça, c'est la sortie matérielle, en général, est faite par tout le monde. Il faut savoir que quand on fait du planeur, on a aussi des parachutes. Donc, ces parachutes sont rangés, donc il faut les mettre. Donc, il y a la préparation de la machine. Et puis, l'instructeur, il a plusieurs élèves, donc il va répartir le temps de la journée entre ses élèves. L'été, on peut avoir entre 3 à 5 élèves, un instructeur. Voilà. Donc, on fait connaissance avec l'élève, on regarde son niveau, on voit avec les élèves comment on va organiser la journée, parce qu'on va les prendre dans un ordre préférentiel en fonction justement de leur niveau. Et puis le soir, on fait un débriefing.
Oui, on a passé
la journée
pour faire une ou deux heures de vol.
Suivant le niveau, suivant les conditions météo, si ça se trouve, on va faire trois vols d'un quart d'heure. Par contre, on peut faire des vols d'une heure, voire plus. Mais en formation, pour moi, je considère que un vol d'une heure, ça suffit. Quitte, vaut mieux faire deux vols de 30 à 45 minutes qu'un vol d'une heure et demie. Pourquoi? Parce que on travaille dans un espace à trois dimensions, donc l'élève, il découvre un espace qui est quand même pas celui qu'il a l'habitude d'utiliser, et quand on vole, ça demande une certaine concentration. Il faut être bien attentif à ce qu'on fait, et ça crée de la fatigue. Et ça sert à rien de continuer à voler
si, on est fatigué.
Si l'élève est fatigué.
Oui, on n'apprend plus rien.
Voilà, on n'apprend plus rien, et puis on dépense du pognon pour rien. Donc il vaut mieux se poser, que l'élève il se repose un peu, quitte à refaire un vol en 20 journées, en fonction de sa progression. Mais il vaut mieux faire 2 à 3 vols dans la journée qu'un vol très long dans la journée. Parce qu'il fatigue et il n'apprend plus rien. Donc moi je le fais souvent avec un élève quand je sens que ce qu'il fait, c'est alors qu'il a été, il a fait les choses très bien,
et tout d'un coup,
que tout d'un coup, il a du mal à travailler correctement. Donc dans ces cas-là, je dis, t'es fatigué, on s'arrête. Alors des fois, il y en a qui disent, bon ben prenez quelques instants les commandes, mais pour moi, c'est pas bon. Il vaut mieux se poser, de manière à ce qu'il aille déjà d'abord s'hydrater, éventuellement remanger un petit peu, voilà, avant de reprendre le vol. Et surtout, participer à la piste, oui, mais pas de façon forcenée, de manière à éviter de se fatiguer bêtement. Donc ça, c'est pour le débutant. Donc la formation, il y a donc la licence, les heures de vol, le remorqué. Suivant les clubs, souvent il y a des forfaits. Donc qui inclut l'ensemble.
Et ça, vous avez une idée d'un forfait
chez nous, je crois qu'aujourd'hui c'est 800 euros et qu'après c'est dégressif en fonction du nombre. Mais c'est un forfait pour 10 vols, un truc comme ça.
Et au bout de ces 10 vols, on peut.
Non, il faut considérer. Alors, aujourd'hui, nous à Vinon, je veux plutôt vous parler de Vinon parce que c'est le club que je connais quand même le mieux. Nous à Vinon, déjà, on a la possibilité de faire du simulateur. Donc ça permet de réduire les dépenses puisque pendant qu'on fait du simulateur. Eh bien, c'est gratuit, on va dire, surtout si c'est un forfait, autrement je crois que c'est 5 euros la séance. Enfin bon, c'est pas excessif. On a également un SF28, c'est un motoplaneur qui permet également à un moment donné de la formation de travailler par exemple les tours de piste, que si on fait en planeur, ben, le problème c'est que les tours de piste, c'est le remorqué.
Il faut le remorquer pour ressortir.
Voilà, il y a une structure lourde avec le remorqueur, et puis on fait des petits vols, mais bon, ça coûte quand même de l'argent, alors qu'avec le motoplaneur, on peut faire plusieurs tours de piste sans perdre de temps en plus, puisqu'on est obligé de ramener le planeur, redécoller, etc. Voilà. Et puis, donc, bien sûr, il y a les heures planeur. Donc, quand on fait cet ensemble, on peut espérer entre 30 à 60 vols être lâchés, c'est-à-dire voler en solo. Voilà. S'il n'y avait pas le SIMU et le SF, à l'époque, disons, où il n'y avait que le remorquage, il fallait compter en gros 60 vols, 40 à 60 vols pour être lâché, et une vingtaine de vols supplémentaires pour être breveté. Bon, là, la réglementation a encore évolué. Maintenant, aujourd'hui, pour être breveté, il faut également avoir fait une formation campagne. Donc, il faut en compter un petit peu plus. Mais on fait la base. C'est pas parce que les gens auront fait leur formation de base campagne qu'ils seront capables après de repartir avec un planeur pour faire de la campagne. Ils auront encore de la formation à faire, mais ils auront leur brevet. Donc, ils pourront voler en solo dans le local du terrain.
Et donc, ça, c'est sur une échelle de temps avec
si on vole. Ben, ça dépend de la pratique de l'individu. Voilà. Si la personne peut venir, si la personne peut venir venir régulièrement le week-end. Voire éventuellement faire un stage d'une semaine ou deux
pendant les vacances
en une année il peut être breveté,
oui, mais c'est important ça, voilà,
mais faut plutôt compter 2 années.
Bon,
il sera lâché avant, mais il sera breveté,
et voilà,
il faut compter à peu près 2 ans. Bon, néant un an ça se fait, mais c'est assez rare.
Et on veut du budget comme ça.
Alors maintenant, j'ai plus trop les prix en tête. Alors, pour les jeunes, il faut savoir qu'il y a des bourses.
Oui, c'est important.
Il y a des bourses fédérales, et ces bourses peuvent être abondées si la personne a passé le brevet d'initiation aéronautique, qui se passe dans plusieurs lycées. Donc, je sais qu'à Manosque, il y en a. Je sais que ça se fait à la fois avec l'aéroclub Manosque-Vinon, qui est le club avion, et l'association aéronautique Verdon-Alpille, qui est le club de vol à voile. Donc là, les jeunes, ils passent le BE1, ils ont une formation sur 1 an, c'est en année scolaire.
Oui.
Ok. Et en général, le BIA se passe en mai-juin. D'ailleurs, ça doit être la période, d'ailleurs. Ils ont toute une série de modules. Il y a même de l'histoire, il y a de l'aérodynamique, il y a de la mécanique du vol, je crois qu'il y a de la réglementation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y a un panache. Et une fois que cette personne a le BIA, qui est valable aussi bien pour l'avion que pour le planeur. C'est-à-dire que toutes les fédérations reconnaissent ces brevets d'initiation.
Il y a de la météo, je pense.
Il y a de la météo, voilà. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est de la météo. Et à partir de ce certificat de brevet d'initiation aéronautique, quel que soit dans le club où ils s'inscrivent, à partir du moment où ils prennent une licence fédérale aéronautique pour l'avion ou vol à voile pour le planeur, je ne voudrais pas m'avancer pour l'ELM et puis les vols libres, mais je pense aussi qu'ils doivent en avoir. Enfin, le BIA, pour l'avion et le planeur, ça c'est sûr. Et donc, ça permet aux jeunes d'avoir des bourses et d'avoir de pouvoir pratiquer une activité à faible prix. En planeur, disons qu'une saison, faut compter entre 2000 et 3000 euros, tout oui. confondu. Parce oui. qu'il faut penser aussi qu'il y a une visite médicale et aéronautique à passer.
Oui. Oui.
Voilà, il y a le carnet de vol à acheter. Bon, enfin, bon, ça, c'est
pire. Bon, disons, sur deux ans, il faut un minimum de 5000 euros. Mettons ça.
Voilà. Alors, si. Moins les bourses.
Oui, moins la bourse.
Moins
la
les bourses
bourse,
pour les jeunes.
Mais ça peut représenter.
Bah, peut-être 1000 euros au global, oui. Et alors, même après qu'ils sont brevetés, oui. au travers des différentes épreuves qui peuvent passer, il y a encore une bourse. Oui. Parce qu'on a une épreuve, alors il y a le lâcher, il y a le brevet, il y a ensuite il y a des certificats de performance, c'est-à-dire qu'il y a un gain de 1000 mètres, une épreuve de 2 heures et de 5 heures, une épreuve de 50 km, puis après il y a les 300, les 500, et ainsi de suite. Et à chaque fois, pour les jeunes bien sûr, il y a des bourses. Alors, et ces bourses sont, varient entre 50, 100, voire 150 euros. Et quand il y a le BIA, souvent, elles sont doublées.
Très bien. Donc ça donne une bonne idée de, si on s'intéresse à ça, de ce qu'il faut investir en temps et en argent.
En temps,
c'est très important.
C'est très important. Faut prévoir, quand on vient, il faut prévoir la journée, c'est ce voilà. qu'il y a de mieux.
C'est un budget aussi. Très bien. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est quand on a toutes ces qualifications et qu'on peut voler, on part dans son avion, on se fait remorquer, et là on peut rester combien de temps en vol?
Le temps de la conviction, c'est-à-dire du début des premières ascendances au coucher du soleil.
Et ça peut
si
durer.
Ça tient.
Et ça peut durer.
En ce qui me concerne, moi j'ai fait des vols de plus de. J'ai dû faire des vols de 8h30 à 10h. Des vols de 5h, c'est fréquent.
Voilà, il est courant de passer l'après-midi en l'air, quoi.
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Fantastique.
De partir. Alors, en plus, si vous voulez, il y a plusieurs modes de temps. Il y a ce qu'on appelle le thermique, quand il y a des nuages, ok, ou quand il y a du ciel bleu.
Oui.
Donc, quand il y a du ciel bleu, c'est plus compliqué à trouver des ascendances, mais il y en a quand même. C'est des taches claires qui déclenchent. Bon, l'avantage en montagne, c'est que comme là où le soleil chauffe le plus, c'est en principe à midi, parce qu'il est perpendiculaire à la surface du sol. Mmh. Et ça, c'est pour la plaine. Mmh. Nous, pour la montagne, le soleil, comme il bouge,
il chauffe les parois
qui, elles, ben, effectivement,
dégagent
des thermiques. Voilà. Alors, il y a le vent qui intervient également pour déclencher, justement, ce qu'on appelle le gradient de vent, qui permet, effectivement, de donner la petite impulsion à terre, si on va par là. Pour déclencher l'ascendance. Parfois, il y a des petites bulles, mais bon, quand il y a des bonnes ascendances, donc il y a, au travers du relief, les nuages, et alors quand je dis le relief, c'est valable pour les montagnes et puis pour le sol, hein, donc qui est perpendiculaire, qui est la terre ferme. Voilà. Ensuite, vous savez, on a ce qu'on a l'onde.
Oui, les vols d'onde.
Le vol d'onde, où là.
C'est le vent qui vient répercuter sur voilà. l'extérieur du sol de montagne. Et qui vous emmène en latitude.
Les trucs, l'ondulatoire. Mmh. Et là, des fois, on peut partir très tôt le matin et rentrer très tard le soir. Donc, ça fait des journées très longues.
Il faut amener le casse-croûte à boire.
Il faut emmener à boire, il faut emmener le casse-croûte, enfin, il faut tout emmener.
Un peu de logistique.
Voilà, il faut ce qu'il faut. Donc, se pose des fois le problème, effectivement, de l'urinoir, mais bon, chacun se débrouille.
Voilà. Ça fait partie des contraintes.
Voilà, exactement.
Très bien. Si des gens sont intéressés, ils viennent à Vinon-sur-Verdon, ils demandent d'avoir quelqu'un et on leur expliquera.
Alors, on a un club, on a un secrétariat qui est ouvert tous les matins, qui est ouvert aussi l'après-midi, mais donc il y a plutôt en fin d'après-midi. Ils répondent au téléphone le cas échéant, mais pour pouvoir faire le travail du quotidien, normalement, le secrétariat est fermé de 2h à 16h et rouvre à 16h jusqu'à 18 heures, je crois, en ce moment. Voilà. Mais le plus simple, c'est de venir surtout le matin ou d'appeler par téléphone. Donc, on fait des vols d'initiation.
Oui.
On fait aussi ce qu'on appelle des vols découvertes. Ça permet de s'inscrire au club pour 3 vols ou 6 vols qu'on fait quand on veut dans l'année. Et là, on vous prend en charge dès le matin et on vous présente le club. Enfin, on s'occupe de vous toute la journée. Un VI, ben, disons, c'est juste le temps du VI et puis après, vous partez, quoi.
Voilà.
Hein, voilà. Et on a toujours des gens au club qui sont à la disposition, des gens intéressés pour faire du vol à voile,
voilà.
Pour faire les VI, pour faire les vols découvertes, vous enseigner, vous faire découvrir la plateforme dans un premier temps, vous expliquer le planeur, vous expliquer en quoi consiste une journée. Donc si vous arrivez tôt le matin, ben, à la limite, vous pouvez assister au briefing, donc vous aurez la météo et puis comment se fait la répartition machine. Puis après, ben, vous verrez l'animation des petits bonshommes qui mettront leur machine en piste, qui mangeront tôt pour pouvoir partir le plus rapidement possible. Voilà. Et puis qui le soir ben, se poseront plus ou moins tard pour rentrer en machine. Il y a à part ceux qui sont peut-être partis sur le relief et puis qui sont pas rentrés, donc qui vont rentrer un peu plus tard ou qu'on ira chercher, soit avec une remorque, soit avec un avion parce qu'ils seront posés sur
des plateformes. D'accord. Bien, merci.
Eh ben de rien.
Ah si, c'est très intéressant, voilà. Et puis j'espère que ça va donner envie à un certain nombre de nos auditeurs de venir vous rencontrer. Claude Bourasso, Vinon-sur-Verdon, quand vous voulez.
Après les avions, nous verrons lors de la prochaine émission d'autres machines volantes. Les hélicoptères, les drones, les projets de transport de passagers sans pilote. Et je vous ferai découvrir un appareil étrange, les crânes au plan. Puis, nous commencerons à aborder le domaine de la conquête de l'espace proprement dite. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 3 janvier 2019, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission. Cette émission sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com et sera rediffusée le mercredi 19 décembre à 15h. Merci à Léna et à James pour la technique, à François et son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
Bonne journée sur Fréquence Mistral.